allons être dans le chapitre 4 de 1 Corinthiens. Nous avons pu avoir, nous avons vu le 1, le 2, le 3, et maintenant nous sommes au chapitre 4. C'est vrai que nous sommes partis dans cette étude de Corinthiens et nous faisons chapitre par chapitre. Alors c'est vrai que, on l'a déjà dit, mais on ne va pas faire verset par verset parce que c'est vrai que ça pourrait être de plus long, et on va faire ce chapitre 4 en gros, si je peux dire comme ça. Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vous rappelez, nous avions vu le chapitre 3 et on avait parlé sur trois points principaux. C'était le rôle, quel était le rôle d'un serviteur. Nous avions vu aussi que Paul prêcher, et il a dit qu'il n'y avait qu'un seul fondement. Le fondement, c'était en Jésus-Christ seul. Et nous avions vu aussi nous avions tout pleinement en Dieu. Et ce soir, nous allons parler de nos relations dans la vie de l'Église. Quel est notre comportement? Comment on doit se comporter dans l'Église? Alors, je vous invite ce soir aussi à faire comme on a fait, on va lire aussi par morceaux ce chapitre 4, et je vous invite à lire donc 1 Corinthiens chapitre 4, et on va lire les premiers versets. Alors si quelqu'un veut bien lire ces versets, de 1 à 5.
Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient.
Oui, merci. Donc, nous avons ici la démonstration du comportement de l'apôtre Paul, de l'humilité et de la fidélité qu'il avait en Jésus-Christ. Les Corinthiens avaient fait de Paul et des autres apôtres, ils avaient fait des maîtres. Et au verset 1, Paul appuie sur le fait d'être considéré comme des serviteurs et des dispensateurs des ministères de Dieu. Alors, un dispensateur ou un administrateur sont ceux qui exercent un ministère pour Christ et ils sont responsables devant Dieu, devant le Seigneur. Paul est soucieux de ce que lui et les ouvriers comme lui proclament le message fidèlement dans l'intérêt, bien sûr, de Jésus-Christ. Et il ne se laisse pas détourner de ce ministère que Dieu lui a confié. Il dira même plus loin, faites tout pour la gloire du Seigneur. Ce qui était important pour Paul, c'est d'être trouvé fidèle. Être fidèle envers le Seigneur et être trouvé fidèle, on pourrait dire, et je me suis posé la question, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Et c'est vrai que j'aime beaucoup la parabole des talents, vous la connaissez. Hein. Ce qui importe, c'est ce que le Seigneur il dit à la fin, quand il a donné les talents à ses serviteurs. Il dit, tu as été fidèle en toutes choses, rentre dans le repos de ton maître. Et c'est vrai que la qualité première d'un serviteur ou d'un administrateur, eh bien, c'est l'obéissance et la fidélité à son maître. C'est-à-dire, Paul avait comme maître, bien sûr, le Seigneur Jésus. Le regard que Paul porte sur sa propre vie est le contraire, bien sûr, de l'orgueil. Il sait très bien que c'est Dieu qui a le verdict final pour juger de son obéissance et pour juger de sa fidélité. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Voilà ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oui, nous rendrons compte devant le Seigneur. Mais même si les sages de ce monde le rejetaient ou l'accusaient d'un point de vue strictement humain, eh bien, ces personnes-là n'étaient pas compétentes pour juger ce que Paul faisait, et encore moins de la qualité de son service. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, en tant qu'Église, eh bien, nous ne devons pas nous juger. Nous ne devons pas porter un jugement prématuré qui conduit à l'exaltation, peut-être même d'un frère. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, que nous avions fini sur cela, il est dit comme ça, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. » Alors, c'est vrai que Paul marchait dans l'humilité, et il nous rappelle que nous ne devons pas mettre notre gloire dans les hommes, mais de mettre vraiment notre gloire dans le Seigneur seul, parce que c'est lui le seul fondement. Ou l'inverse, peut-être n'allons pas humilier une personne, parce que cela c'est malvenu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas à nous de juger un frère ou une sœur. Ce n'est qu'au tribunal divin que tous les faits seront connus, et c'est Dieu seul qui jugera, et c'est à Dieu seul que nous devons rendre des comptes. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que nous pouvons reprendre un frère ou une sœur qui peut-être se trompe dans ce qu'il peut penser, qui peut se tromper par donner une mauvaise interprétation. Je crois qu'il est important de pouvoir aussi reprendre un frère, mais nous devons le reprendre toujours, bien sûr, avec amour, en sachant que c'est un frère. Et la parole de Dieu nous dit, un passage que j'aime bien, que votre bouche soit accompagnée de miel et de douceur. De douceur ou de miel, enfin pareil. Sachons, quand nous devons reprendre quelqu'un, de le reprendre toujours avec amour, sans porter un jugement. Nous ne nous jugeons pas donc les uns les autres, mais je crois que quand on reprend quelqu'un, il faut toujours le reprendre selon la parole, selon ce que dit la Bible. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul le dit un peu plus loin. Alors, ayons les mêmes sentiments que l'apôtre Paul. Restons humbles et restons fidèles. Fidèles à l'Évangile, à la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous dira un jour. Oui, tu as été fidèle en toute chose, rentre dans le repos de ton maître. Oh, qu'est-ce que j'aimerais entendre cette parole de la part du Seigneur quand je serai face à face à lui. Alors ici, Paul termine sa discussion sur le sujet de la division qu'il y avait dans l'Église en mettant le doigt sur le problème des Corinthiens, parce que le problème des Corinthiens, c'est vrai, il y avait de la jalousie, il y avait des divisions, il y avait de l'orgueil. Et donc, nous allons voir dans les 8 prochains versets qui arrivent, Paul affirme clairement que l'orgueil, eh bien, est la cause des divisions qui se sont produites dans l'église de Corinthe. Et je vous avoue que, en lisant ça, j'ai donné comme titre à ces 8 prochains versets que nous allons lire, j'ai donné comme titre « Le zèle étouffe l'évangile ». Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir du zèle, mais nous ne devons pas aller au-delà. Avoir du zèle pour le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que nous devons aussi, des fois, attention. Il ne faut pas que notre zèle prenne le dessus sur nous-mêmes ou sur l'Évangile. On va le voir. Alors, je vous propose de lire les versets suivants, les versets 6 à 14, toujours du chapitre 4 de 1 Corinthiens. N'hésitez pas à lire à haute voix, quelqu'un qui a une grande voix.
6, tu dis ?
Oui, le verset 6 à 14.
Or, frère, j'ai tourné ceci sur moi, c'est la version d'Armin. Ouais. J'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez régné sans nous. Et je voudrais bien aussi que vous régniassiez, afin que nous aussi, nous régnassions avec vous. Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort. Car nous avons été faits un spectacle pour le monde, et pour les anges, et pour les hommes. Nous, nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts. Vous, en honneur, mais nous, dans le mépris. Jusqu'à quel verset ?
14.
Jusqu'à cette heure, nous souffrons, et la faim, et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés pour, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés.
Voilà. Merci. Alors, comment se comporter à l'Église ? Alors, c'est vrai que certains disciples vont souvent plus loin que les maîtres. Et on peut dire aussi que les luthériens vont plus loin que Luther. On peut parler aussi des calvinistes qui vont plus loin que Calvin. Et moi, j'aimerais vous dire, peut-être que les évangélistes vont plus loin que l'Évangile. Alors, je crois qu'il faut faire attention. Je m'explique. Je peux rajouter aussi que n'allons pas plus loin que les apôtres. Et j'aime ce que j'ai souligné dans le verset 6 qu'on a lu, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et de l'autre. Ne pas aller plus loin que ce qui est écrit. Vous savez, les comparaisons, par exemple, vouloir se comparer. Et je sais qu'on en avait déjà parlé un peu dans les premiers chapitres de 1 Corinthiens, Josias en avait parlé, le fait de vouloir se comparer. Eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Les serviteurs de Dieu peuvent générer jalousie et amertume. Si on commence à se faire des comparaisons entre celui-là, il parle mieux que moi, etc. et tout. Il peut y avoir une certaine jalousie. Il peut y avoir aussi une certaine jalousie entre nous, par rapport, si on a un ministère dans l'Église, on en avait parlé là aussi la dernière fois, celui-là, pourquoi il fait ça, moi je le ferais mieux que lui, etc. etc. Nous devons être vigilants à cela, parce que ce sont des pièges qui nous amènent souvent à l'orgueil. Les discours de Paul ont été confondus avec l'Évangile auquel il rendait témoignage. Et cette idolâtrie du discours a fini par déformer l'Évangile. Aujourd'hui, il me semble que cela, et on en avait déjà parlé aussi un peu, est de pire en pire. On va plus loin que l'Évangile. Il y a de plus en plus des nouveaux discours, des nouveaux mouvements. rajoutant d'autres révélations, du genre « Oh, Dieu m'a dit, oh, j'ai vu Dieu. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais j'ai déjà entendu. « J'ai vu Dieu. » Ils appellent ça la mort imminente, c'est ça. « Oui, je suis monté, je suis redescendu et Dieu m'a dit. » Tout cela, ça donne, ça sème la zizanie dans l'Église. L'Évangile, qui est la bonne nouvelle, aujourd'hui, elle ne suffit plus. On veut rajouter quelque chose. On peut, c'est vrai, peut-être, penser de le faire avec une bonne conscience. Mais je crois, comme ce qui est dit, n'allons pas plus loin que ce qui est écrit. Vous savez, aujourd'hui, à travers Internet, à travers tout ce qu'on voit, je n'avais pas l'intention de vous le... j'ai pensé juste dire ce soir en arrivant, je vais vous lire quelque chose qui m'a un peu perturbé. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de discours, des dons et tout, mais ça on le verra comme on a dit au chapitre 12 et 14. Mais j'ai lu dernièrement quelque chose où il est dit, c'est une personne qui écrit ça, je nommerai pas le nom et je ne le jugerai pas, loin de là. Hein. Mais voilà ce qui est marqué. Alors il dit, on m'écrit souvent pour me demander comment prier efficacement et comment voir des guérisons au nom de Jésus. Il continue, il dit, le défi de guérison, c'est la formation qu'il faut. 21 jours pour avoir vos premières guérisons. C'est une formation gratuite où vous pouvez vous instruire. 21 jours pour voir les guérisons. Ça veut dire que ce n'est plus un don de Dieu. C'est une formation. Je crois qu'il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention à ces beaux discours. Parce que même il peut y avoir des miracles. Mais est-ce que ces miracles viennent vraiment de Dieu? Nous devons être vigilants. Alors, je ferme cette parenthèse. Je dis bien que je ne juge pas. Mais je crois que nous devons faire attention à comment on doit se comporter dans l'Église. Ne pas aller plus loin de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est cela, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, vous connaissez ce verset, hein, vient de la parole de Dieu. Elle vient de l'Évangile. Et c'est ce que Paul annonçait. Le salut par la foi. Aujourd'hui, on veut apporter de plus en plus, on veut dire d'autres choses que ce qui est écrit, comme si la parole n'était plus suffisante, qu'elle ne nous suffisait plus. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du spectacle. On veut confirmer et aller plus vite. Comme si on voudrait, bien entendu, et où on se dit, mais Dieu, il n'agit pas. Hein. Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas les choses plus vite et il amène plus les personnes à lui? Alors on veut aller plus vite. Certains Corinthiens pensaient que ceux qui ont la foi pouvaient faire n'importe quoi. Et on le verra au chapitre 5. Paul parlait de la puissance de l'Esprit de Dieu qui renouvelle toutes choses. Les chrétiens de Corinthe faisaient de certaines manifestations de l'Esprit un critère d'authenticité de la foi. Vous savez, il n'y a pas Joël, je me permets de le dire. Un jour, ça ne concerne pas une personne de l'Église, hein, mais c'est un frère. Et un jour, cette personne est venue à la maison. Pardon ?
Joël. Il s'est trompé de Joël.
Non,
parce qu'il y a
Joël. Ah, pardon, oui. Non, je parle de Joël, mon épouse.
De toute façon, c'est enregistré.
Ah, pardon. Ah, oui. D'accord. Quelqu'un est venu, un frère avec qui je discute beaucoup, beaucoup, mais je ne suis pas d'accord sur certains points. Un jour, il m'a dit, mais tu sais, on a prié pour des problèmes que mon épouse avait, que le Seigneur la fortifie, la garde et tout. Et la personne m'a appelé le lendemain en me disant, « Alors, comment va Joël ?» Je fais, « Bon, ça va, oui, bon, elle a toujours certaines angoisses, des difficultés. » Elle me fait, « Ah, peut-être que vous manquez de foi. » il m'a dit. Peut-être que vous manquez de foi. Je trouvais là aussi, bon, j'ai discuté avec lui, mais je crois que, voilà, il ne faut pas faire, hein, il faut faire très attention à tout ce qu'on peut nous dire aussi. Et c'est notre rôle dans l'Église, ce n'est pas de la démonstration, notre rôle dans l'Église, c'est d'annoncer, comme l'apôtre Paul, l'Évangile. D'annoncer Jésus-Christ crucifié, mort sur la croix, et qu'il nous donne le salut. Ce n'est pas par la vue que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Et la foi, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est de croire même si on n'a pas vu. C'est ça la foi. Bon, là aussi, c'était quelque chose que... Bon, je ne voudrais pas m'échapper, je vais continuer d'essayer de rester dans mes... Donc c'est vrai que les Corinthiens faisaient de certaines manifestations, hein, un critère d'authenticité de la foi. Et malheureusement, les forts, ceux qui étaient forts, eh bien, s'en servaient au grand scandale des faibles, qui se laissaient aussi influencer. Et nous devons être vigilants. Paul modère l'ardeur des troupes. Il modère le zèle. Paul réagit contre ce succès dangereux de sa propre prédication, tout comme celle de ses compagnons. Paul veut leur faire comprendre de ne pas aller plus loin de ce qu'ils ont entendu de lui. Quelle leçon pour nous. N'allons pas non plus, nous, plus loin que ce que nous dit la parole. Je le répète, pardon, n'allons pas plus loin de ce que nous avons reçu, verset 7. Et Paul, c'est extraordinaire, hein. Il a fallu que je relise deux ou trois fois ce passage. C'est extraordinaire pour se faire plus convaincant. Eh bien, l'apôtre Paul utilise ici de l'ironie, hein, de ces versets que nous venons de lire. Alors, je paragraphe là ce qu'il veut dire. C'est dans les versets entre 8 et 13. Alors, il dit, « Oh, vous êtes rassasiés. Je vous admire, frère. Vous vivez déjà le ciel sur la terre. Vous êtes des chrétiens parfaits. Vous avez réussi là où nous n'avons pas réussi. Là où nous, pourtant nous avons apporté l'Évangile chez vous. Nous, nous en sommes qu'aux prémices, au premier début. » Oh, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas propriétaires de l'Évangile. Car l'Évangile est une parole, hein, qui nous est continuellement adressée et que nous avons besoin chaque jour de nous nourrir de cette parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Restons donc mendiants de l'Évangile. L'Évangile n'est pas une religion. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas une idole qui réclame un engagement fanatique. Non, non. Dieu veut des hommes et des femmes humbles, fidèles, fidèles à ce qu'il nous enseigne. Dieu n'a pas besoin d'avocat. C'est lui notre avocat. Il n'a pas besoin qu'on prouve la réalité de son existence par des miracles. Parfois, on pousse Dieu à faire des miracles pour convaincre. Comme si Dieu n'allait pas assez vite et comme si Dieu ne faisait pas comme on voudrait. Peut-être même pour se convaincre soi-même. Et demain, qu'est-ce que ça sera? Si aujourd'hui, on pousse Dieu à faire comme nous on veut. Demain, ça sera comme nous dit la Bible, où il nous est dit que on dira que le Messie est à un endroit, hein, où il fera des miracles, des grands miracles. Ben, la Bible nous dit, ben, n'y allez pas. Et peut-être que demain, si on continue comme ça, aller au-delà de ce que la Bible nous enseigne, eh bien oui, on va trouver des personnes qui vont faire des miracles. Le Seigneur nous dit, non, n'y allez pas. Restons fidèles à la parole, à la parole sainte, au livre sacré, à la parole du Dieu vivant. Ayons soif de l'Évangile et ne cherchons pas l'extraordinaire. comme nous l'avons dit, la foi est une est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Thomas ? Heureux l'homme qui n'a pas vu. Heureux l'homme qui croit et qui n'a pas vu. Ne marchons pas par la vue. Ne marchons pas par ce que nous pouvons entendre qui est autre que ce que nous dit la parole. Or, aujourd'hui, on veut voir l'extraordinaire et on veut marcher par la vue. La prédication de Paul était Jésus-Christ. Et rien que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, mort pour nous, et ressuscité. Ne cherchons pas à prouver que Dieu existe par toutes sortes de dons. Les dons, c'est Dieu qui les distribue, selon son plan, selon son dessein. Paul, tout au long de cette discussion, va éviter de nommer les personnes coupables. Paul voulait servir d'exemple d'homme soumis, humble, fidèle. Il n'allait pas au-delà de ce qui était écrit, obéissant à la parole et non à leurs penchants et aux opinions du monde. L'humilité est la seule attitude acceptable à l'égard de Dieu. C'est ce qu'il nous dit, on en a parlé la dernière fois. Ce que je demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout chrétien devrait adopter l'attitude de l'humilité. Dans Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 11, on ne va pas le lire. Si vous prenez des notes, notez-vous ce passage de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Hein. Paul parle de l'humiliation de Jésus et couronné ensuite de l'exaltation. Par contre, les Corinthiens, c'était apparemment passé de la première, c'est-à-dire de l'humiliation. Ils voulaient connaître immédiatement l'exaltation. Plus de malades, plus de maladies, plus de souffrances. Les Corinthiens se croyaient comblés. Le verset 8, Paul dit déjà, vous êtes rassasiés. Mais ils auraient dû avoir soif et faim de la justice. Matthieu, chapitre 5, verset 6, nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Hélas, les Corinthiens étaient contents d'eux-mêmes et à l'abri de leur théologie de palais. Et là aussi, si on lit Amos au chapitre 6 et versets 1 à 7, que nous n'allons pas lire parce que le temps passe, hein, eh bien, ce passage nous rappelle les excès qui caractérisaient le style de vie des Israélites. Alors, restons humbles, vrais, fidèles. C'est ce comportement que nous devons avoir. Et c'est ce comportement que Dieu veut, de ne pas se sentir supérieur aux autres. Alors, je vous propose de continuer à lire, ou peut-être, parce que... Quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose ? Alors, on va continuer. Donc, je vous propose maintenant de lire le chapitre... le verset 14, eh bien, jusqu'à la fin, jusqu'au 21.
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous alliez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur.
Merci. Alors, j'ai marqué sur les feuilles, Dieu est notre Père, ne cherchons pas à nous séduire par quoi que ce soit. Alors, nous voyons ici les sentiments de Paul, les sentiments qu'il avait envers les Corinthiens. Ah, il est, c'était pas des jugements qu'il portait avec brutalité, ou quoi qu'il a su être fort avec les forts et faible avec les faibles. Mais on voit les sentiments qu'il a envers les Corinthiens. Paul les avertit non pour leur faire honte. Et c'est vrai que quand on reprend quelqu'un, c'est pas pour l'accuser. C'est pas pour lui faire honte. Non. Mais il les avertit comme des enfants bien-aimés. L'amour. L'amour de l'apôtre Paul. Et nous savons que le Seigneur nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas parce qu'on est d'accord ou pas d'accord qu'on ne doit plus aimer la personne. Non, mais il est bon de pouvoir reprendre avec amour. Nous pouvons, depuis le premier chapitre, comparer un peu ce phénomène qui est bien connu de la crise d'adolescence. L'autorité parentale est ici représentée par l'apôtre Paul. Et les adolescents, ce sont les chrétiens de Corinthe qui sont en pleine crise. Un peu comme un enfant qui cherche, bien sûr, à s'affirmer en s'opposant à l'autorité et en s'identifiant à des modèles de monde. Parfois, combien de fois on veut s'identifier à d'autres personnes? Les Corinthiens cherchaient à s'affirmer en s'opposant à leur père spirituel. Mais Paul leur rappelle que c'est lui-même qui les avait conduits au Seigneur. Il était en quelque sorte leur père spirituel. Et il dit comme ça, soyez mes imitateurs. Alors, est-ce que de la part de Paul, de la bouche de Paul, cela ne voulait pas dire identifiez-vous à moi plutôt qu'à Apollos ou à Pierre, ou à un autre? Ce que veut dire Paul, c'est suivez mon exemple. Et quel était cet exemple? Quel était l'exemple de Paul? On peut dire que l'exemple de Paul qui nous a laissé, oui, c'est son amour. C'est sa, la fidélité dans ce qu'il enseignait. Son humilité. L'exemple de Paul, c'était la prédication de la croix. De la foi en Jésus-Christ. De la maturité spirituelle. Paul retire aucune gloire de tout ce qu'il a fait. Aucune gloire, il ne se glorifiait pas, non, contrairement à certaines personnes. Et là encore, je ne veux juger, je ne vise personne. Contrairement à certaines personnes qui retirent une certaine gloire de ce qu'ils font. Ou même de ce qu'ils disent, oh tiens, moi j'ai converti cette personne. Ce n'est pas nous qui convertissons, nous l'avons vu la dernière fois. Paul semait. Apollos arrosait. Mais c'était Christ qui fait croître. Ne nous glorifions pas. Si, même si un jour nous avons été le père spirituel de quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais ne nous glorifions pas parce que ce n'est pas nous qui donnons le salut, qui convertissons la personne. C'est le Seigneur. Il n'y avait aucune gloire de l'apôtre Paul. Donc, il est important de l'imiter dans ce qu'il disait. Paul ne cherche pas des partisans pour soutenir sa propre cause. Oh non! Mais plutôt, il cherche des imitateurs qui suivent ses principes de vie en Jésus-Christ. C'est un exemple pour nous aussi. C'est un modèle pour nous qui sommes chrétiens. Et que nous faisons partie de la famille de Christ. Paul veut rappeler aux Corinthiens que être chrétien, c'est dépendre de Dieu seul. et non d'un autre. C'est un rappel pour nous aussi. De qui nous dépendons? Ah, décidément, là je me suis noté, j'ai vu sur une vidéo des partisans d'une personne qui faisait un peu la pub pour la personne. Pour que cette personne puisse avoir un millier de signatures, hein, pour pouvoir s'exprimer sur Internet, eh bien, il faisait la pub de telle ou telle personne. L'apôtre Paul, lui, ne voulait pas de pub. Hein. Ici, Paul, dans ce paragraphe, rappelle que même s'ils avaient 10 000 mètres en Christ, 10 000 mètres en Christ, hein, c'est au verset 15, ils n'avaient qu'un seul Père. En ce qui concerne la foi, c'est Paul qui les a conduits au Seigneur, il était donc leur Père spirituel, et il les conjure à être ses imitateurs de ses propres intérêts pour les intérêts de Jésus-Christ. Ça oui, mais pas le contraire. Pour les aider à atteindre ce but, eh bien, Paul, il leur envoie qui? Il leur envoie Timothée, son enfant, là aussi bien-aimé, fidèle lui aussi, comme l'apôtre Paul. Fidèle dans le Seigneur. Et il n'envoie pas n'importe qui. Hein? Il envoie parce que Timothée a la même mission que l'apôtre Paul. De rappeler, hein, Jésus-Christ tel que Paul lui-même, hein, les avait enseignés. Oh, c'est vrai que je loue Dieu qu'il place des hommes, des ouvriers pour la gloire du Seigneur, et nous devons prier pour des personnes, hein, qui aussi ont mis leur foi totale en Jésus-Christ et qui sont pour nous aussi des modèles. Il est bon d'avoir aussi des modèles, pas de les glorifier, mais combien il est important d'avoir des modèles, de voir, moi je sais que j'ai eu un oncle qui a été un modèle, mais je ne le glorifie pas. Je remercie Dieu qu'il a placé cet homme devant moi. Et nous pouvons remercier Dieu aussi qu'il a placé chacun de nous pour amener une personne. Ça c'est, mais qui amène au Seigneur Jésus. Je ne sais plus où j'en étais. Contrairement à certaines personnes qui retirent une certaine gloire de ce qu'ils font, l'apôtre Paul ne retirait aucune gloire. Oui, il cherchait des imitateurs qui suivaient ses principes. Paul, dans ce paragraphe, bien rappelle que même s'il avait 10 000, ça je l'ai lu, pardon, hein, pour les intérêts de Jésus. Alors, je me retrouve, pardon. Pour les aider à atteindre ce but, donc, il envoie l'apôtre Timothée aussi. Mais, bien sûr, il y a des personnes. Quand une fois qu'il envoie Timothée, il nous dit qu'il y a des personnes. Enfin, elles sont mal intentionnées pour croire que Paul n'avait pas le courage de venir les voir en personne. Ceux-là, ils étaient enflés d'orgueil, en s'imaginant que Paul ne viendrait pas. Mais si le Seigneur lui permettait de revenir, eh bien, l'apôtre Paul dénoncerait leur orgueil. Parce que parfois, il faut savoir dénoncer aussi les choses avec amour. Ne gardons pas, parfois, il peut avoir en nous quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous irrite par rapport à un frère ou une sœur. N'attendons pas que cela bouillonne dans nos cœurs. Allons voir la personne. Et de lui dire clairement, tu sais, voilà, il faut être clair. Écoute, tu as dit ça, ça m'a choqué, j'ai pas compris. L'importance d'aller voir un frère et une sœur. Ne restons pas avec de l'animosité dans nos cœurs. Parce que ça... Oh, plus on le traîne à nous, ben plus ça va bouillir. Et à la fin, ça peut exploser. Alors je crois que très bon, humble, vrai, sincère. Le verset 20, il est dit, après tout, ce qui compte, c'est la puissance, car le royaume de Dieu ne se résume pas en paroles seulement, mais aussi en actions. Il ne se contente pas d'une profession de foi, mais il exige la réalité de la foi. Ça m'a interpellé. Il ne se contente pas d'une profession de foi. Nous avons tous ici fait profession de foi. Nous avons témoigné de notre foi. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons eu des baptêmes. Dimanche, nous allons avoir. Ils vont publiquement exprimer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et ils décident maintenant de marcher avec le Seigneur. C'est une confession de foi qu'ils vont faire. Et que nous avons fait. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit aller toujours de l'avant. Ça exige la réalité de la foi. Jésus a dit, trouverai-je de la foi quand je reviendrai? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de beaux discours. On recherche le sensationnel, on veut voir l'extraordinaire et on en oublie la foi. Pourtant, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Oui, la foi. La foi en Dieu seul. Même si on ne comprend pas tout, il nous faut la foi. Vous savez, je crois que j'ai déjà dit à une réunion de quartier, il y a dans l'église un jeune qui n'a aucune connaissance. Il a du mal à lire. Mais je vous assure, il a une foi qui touche. Il a une foi vraie et sincère. Quand je suis avec lui, quand il prie, quand il me parle de Jésus, waouh, il me touche. C'est le cœur qui parle. Et dernièrement, il y a un passage qui m'a énormément parlé, et je crois que je l'ai déjà partagé avec vous, où il est dit, je ne me rappelle plus la référence, mais je me rappelle ce qu'il est dit, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Ça parle. Et ce jeune-là, eh bien, il a son cœur déchiré pour Jésus. Ça, c'est la foi vraie et sincère. Ah, pourtant, il ne va pas vous faire un discours construit. Non, mais il aime Jésus. Oui, il aime Jésus. Si l'église de Corinthe manifeste un esprit de rebelle, Paul viendra à eux avec une verge. Mais s'ils s'humilient et se soumettent, alors il viendra avec amour et un esprit de douceur. Wow, ça m'a fait rappeler à ce qui nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où il est dit, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, s'il se détourne de leur mauvaise voie, eh bien je serai leur Dieu. Waouh, quelle attitude nous devons avoir dans l'Église. Cette attitude d'humilité, cette attitude de se soumettre à Dieu seul, c'est lui notre maître. On dit que l'Église, c'est un corps, mais c'est Christ qui en est la tête. Et je crois qu'on doit toujours tourner nos regards vers lui. C'est lui notre Père. Même si Paul avait aimé les Corinthiens, bien il savait qu'un père qui aime ne recule pas devant la discipline. Hébreux au chapitre 12, verset 7, nous dit « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si nécessaire, l'apôtre Paul aurait brandi une verge. La verge, d'un point de vue gréco-romain, je l'ai lu, était un symbole de discipline. Dans le mot disciple, qu'est-ce qu'on entend? On entend le mot discipline. Lorsque l'un des disciples a commis un péché de nature publique, la discipline, elle est nécessaire. Certes. Il est bon d'aller voir la personne avec douceur, amour, lui montrer. Tout comme quand un enfant fait une bêtise, eh bien, il a besoin d'être repris. La discipline est nécessaire dans un foyer. Et à l'Église, tout comme dans l'Église, le Saint-Esprit doit continuer son œuvre sans être lui aussi attristé. Quel est notre comportement à l'Église? Qui est notre Père? Franchement, je vous avoue qu'à chaque fois que je dois faire une étude, j'ai toujours peur. Je me dis, oh là là. Et j'ai besoin de lire et de relire et de relire le chapitre pour que vraiment il puisse s'imprégner. Et par la grâce de Dieu, ben, il me fait découvrir des choses et je me dis, mais waouh, ce qui est important, c'est rester fidèle. Fidèle à ce qu'ils nous disent. Et surtout, de ne pas aller au-delà. Hein? C'est ce que nous devons avoir. Nous. C'est comme un enfant, il ne doit pas aller au-delà de ce que les parents vont dire ou faire. Hein? Il doit respecter. Mais dans l'Église, c'est pareil. Nous ne devons pas aller au-delà, parce que c'est Christ qui en est la tête. Et au-delà de l'Évangile. Alors, voilà, comme la dernière fois, il reste 3 minutes, et c'est bien de finir à l'heure. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce comment se comporter dans l'Église, n'hésitez pas. S'il n'y a personne, et bien on pourra terminer par la prière.
Tu parlais de l'humilité de Paul et au verset 1, donc on nous regarde comme des serviteurs. Dans ma Bible, j'ai une petite note là qui apprend que ce mot, en fait, désignait des esclaves qui étaient dans les galères et qui ramaient, et qui étaient dans l'étage inférieur, le plus bas, dont les plus méprisés. Donc Paul va choisir un mot très très fort pour vraiment montrer cette humilité qui le caractérise. Ouais, tout à fait.
Oui, vous voulez.
Moi, je trouve intéressant parce que dans le premier verset, donc, il nous parle de le regarder comme un serviteur. Et après, il demande de le regarder comme un père. Mmh. Et je trouve ça comme une double facette, en fait. Parce qu'on voit qu'il il montre son humilité, mais il montre aussi une certaine autorité et un lien très fort. Enfin, tout à l'heure, tu parlais que, bien sûr, on ne convertit personne, ce sont les gens qui se convertissent. Mais il a employé le mot « engendrer ». Et là aussi, on voit quelque chose de très profond. Bien sûr, il n'y a pas parlé de convertir, là, mais on se rend compte quand même que « engendrer », à plusieurs reprises, Paul, il parle des douleurs de l'enfantement qu'il éprouve pour certains chrétiens. Donc il y a quand même un lien qui est très fort entre eux et les Corinthiens, quoi.
Tout à fait.
Il n'a pas fait. Enfin, pour moi, ça va plus loin que simplement semer un message. Ouais. Quoi. Il y a quand même une.
C'est un peu, on le voit un peu le même. C'est la même chose quand on dit la relation qu'il y avait entre Paul et Timothée. On voit vraiment que d'être un père spirituel, c'est la personne qui va s'occuper de conduire, d'enseigner, d'être là, d'être présent et de pouvoir perd ce chemin avec lui. C'est vrai que c'est pas simplement de semer, il faut savoir, c'est comme quand on va discuter avec quelqu'un, peut-être qu'on va lui parler du Seigneur, c'est pas parce que ça y est, j'ai discuté, voilà, j'ai semé, maintenant débrouille-toi. Non, non, c'est tout un accompagnement, et l'apôtre Paul, on voit, il veut accompagner, il veut même aller le revoir. Et on voit c'est vraiment cette intimité qu'il y a, hein, cet amour, parce que vraiment, il les considère comme des fils. C'est important. Hein. Voilà, alors, tu veux justement, tu veux prier, Joël?